Chapitre 3. Soyons sérieux, il s'agit d'affaires. Nous allons pénétrer dans les bureaux de la maison Pizzituti, Turlington et Branca, qui trafiquent avec les échelles du Levant. Est-ce qu'on y comprend quelque chose au commerce du Levant? Courage, si vous avez jamais connu ce que c'est que d'avoir besoin d'argent, vous serez tout de suite au fait du sujet. Le commerce du Levant se trouve quelquefois dans l'embarras. Turlington cherchait de l'argent. La lettre qu'il avait reçue à bord de son yacht était du troisième associé, M. Branca. Voici ce qu'elle contenait. Une crise dans le commerce. Tout va bien, sauf nos affaires avec les petites maisons étrangères. De ce côté, il nous tombe des effets pour 40 000 livres sterling et aucune rentrée, j'en ai bien peur, pour les couvrir. Les détails dans une autre lettre qui vous est adressée au bureau de poste d'Ilfracombe. Je suis brisée d'émotion et je garde le lit. Pizzituti est encore à Smyrne. Revenez immédiatement. Le soir même, Turlington était à Londres, à son bureau d'Austin Friars, occupé à dresser son bilan avec l'assistance de son premier commis. Pour le dire en peu de mots, le négoce de cette maison était d'une nature extrêmement compréhensive. Elle trafiquait de toutes sortes de marchandises. Tout lui allait, depuis les cotonnades de Manchester jusqu'aux figues de Smyrne. Elle avait des succursales à Alexandrie, à Odessa, des correspondants un peu partout, sur les côtes de la Méditerranée et dans les ports de l'Orient. C'était à ces correspondants que se rapportait le message de la lettre de M. Branca, où il était question des petites maisons étrangères, et c'était à eux qu'étaient dus les embarras financiers qui menaçaient en ce moment la maison principale d'Austin Friars et qui avait brusquement rappelé Turlington à Londres. Chacun de ses correspondants avait réclamé et obtenu le droit de tirer sur Pizzituti, Turlington et Branca pour des sommes qui variaient de 4 à 6 000 livres sterling, de 100 000 à 150 000 francs, sans autre sûreté que la promesse verbale que les fonds pour payer les traites seraient envoyés avant l'échéance. La concurrence, est-il besoin de le dire, était au fond de ce système d'une insouciance voisine de la folie. Les maisons indigènes avaient pour principe de décliner toute affaire avec des clients qui leur refusaient ce privilège réclamé. Dans le cas de Turlington, les correspondants étrangers avaient tiré sur lui pour des sommes qui, si elles n'étaient pas trop fortes en elles-mêmes, formaient cependant un total considérable. Ils s'étaient procuré de l'argent avec leur traite et laissaient maintenant à la maison de Londres le soin de les payer. Les uns n'avaient envoyé que des excuses, les autres des traites sur des maisons déjà en faillite ou qui allaient tomber avant la fin de la crise. Après avoir épuisé ses ressources en espèces, M. Branca avait fait face aux nécessités les plus pressantes en engageant le crédit de la maison autant que le permettait la prudence. Il restait encore à trouver 40 000 livres, 1 million de francs, pour les échéances qui arrivaient avant Noël et pas un liard dans la caisse pour couvrir cette formidable dette. Après avoir travaillé toute la nuit, ce fut là le résultat auquel dut s'arrêter Turlington quand l'aube le surprit penché sur ses livres. C'était lui seul qui supportait le coup. La part de ses associés était insignifiante. Le capital était à lui, pour lui aussi étaient les risques. À lui de trouver l'argent ou d'affronter la seconde alternative, la ruine. Comment sortir de là? Avec sa position dans la cité, il pouvait hardiment aller chez Bulpit Frères, ces gros banquiers qui, disait-on, faisaient pour plusieurs millions d'affaires par an et y empruntaient la somme dont il avait besoin. 40 000 livres, c'était une bagatelle pour les Bulpit. Mais comment rendre plus tard cet argent? Sa pensée se reporta sur le mariage avec Nathalie. Sir Joseph avait promis de donner à sa fille la moitié de sa fortune, juste 40 000 livres. Turlington se leva et fit un tour dans sa chambre. S'il s'adressait à Greybrooke, mais n'était-ce pas lui donner des soupçons? Et alors, que deviendrait son mariage? Il ne fallait songer à la fortune du beau-père que comme moyen de payer une dette dont l'échéance serait fixée à 3 mois, juste après le mariage. Il alla déjeuner à son club, n'ayant plus qu'un seul souci, la sûreté qu'il donnerait au Bulpit pour garantir son emprunt. Ses revenus, il les dépensait. Des espérances, il n'en avait d'aucun côté. En fait de propriété, il ne possédait qu'une 20aine d'hectares dans le Somersetshire, avec une petite maison rustique, moitié ferme, moitié cottage. Il ne pouvait donc tirer de ses propres ressources cette garantie indispensable. Recourir à des amis dans la cité eût été compromettre son crédit. Il acheva son déjeuner et revint à son bureau dans Austin Friars sans avoir pu résoudre cette dernière difficulté. Les portes étaient ouvertes au public, la besogne marchait. Il n'était pas dans son cabinet depuis 10 minutes quand le commis chargeur vint frapper à sa porte et le troublait dans ses méditations. « Qu'y a-t-il encore ?» lui dit-il avec impatience. « Des doubles de connaissances, monsieur, » répondit le commis, et il plaça les polices sur le bureau du patron. Turlington avait trouvé. Voilà le nantissement qu'il lui fallait. Il renvoya l'employé et se mit à examiner les papiers. Il contenait la déclaration de marchandises embarquées à destination de la Maison de Londres sur des navires qui arrivaient de Smyrne et d'Odessa, et il portait les signatures des maîtres de ces navires qui s'engageaient à délivrer les marchandises en bon état. Les premiers bulletins étaient déjà entre les mains de Turlington, les doubles avaient été envoyés pour les remplacer en cas d'accident. Il résolut de s'en servir comme garantie de son emprunt, en gardant les premiers bulletins pour entrer en possession des marchandises. La fraude, se disait-il, n'était qu'apparente, la sûreté était une simple formalité. Son mariage allait le mettre à même de payer sa dette, et les profits de son commerce lui permettraient plus tard de reconstituer la dot de sa femme. Il ne s'agissait que de maintenir son crédit par des moyens qui n'étaient pas contraires à la loi. Dans les limites un peu larges de la moralité commerciale, Richard Turlington avait une conscience. Il mit son chapeau et se rendit chez les banquiers, sa fausse sûreté dans sa poche, sans se trouver le moins du monde, humilié dans sa propre estime par cette ruse de guerre. Les frères Bulpit, qui n'étaient pas fâchés d'inscrire un nom comme le sien sur leur registre, le reçurent à bras ouverts. La sûreté qu'il offrit et qui couvrait son emprunt fut acceptée comme chose superflue. Il prit l'argent à 3 mois. Lorsqu'il se retrouva dans la rue, il affronta la cité de Londres avec l'orgueil de cet être admiré, considéré, content de lui, qu'on appelle un homme solvable. Le démon du mal qui marchait dans son ombre devait triompher. Le premier pas était franchi. Le lendemain, Turlington se fit conduire du côté des faubourgs, espérant que les Greybrook seraient de retour. Sir Joseph n'aimait pas Londres et n'avait jamais pu se résoudre à se rapprocher de la ville, plus près que Muswell Hill. Quand Nathalie voulait se distraire, aller au bal, au théâtre, visiter des magasins, elle avait son pied-à-terre à Londres, chez une sœur de Sir Joseph, Mistress Sandford, laquelle habitait ce cendre du tourbillon de la vie fashionable qui a nom Berkeley Square. En passant dans une rue populeuse, la voiture de Turlington croisa un cab où il vit Lancelot en compagnie de son frère. Les deux jeunes gens se rendaient au bureau de police pour prendre des informations sur ses antécédents. Cette rencontre était une preuve que les Greybrook étaient à Londres. Il ne trouva cependant que Sir Joseph et sa sœur. Nathalie déjeunait en ville chez sa tante. On lui fit le meilleur accueil. Après avoir tranquillisé les deux vieilles gens au sujet de l'affaire qui avait nécessité son brusque départ et qu'il expliquait par une étourderie de ses employés, il aborda nettement la question de son mariage. Il eut une longue explication, de laquelle il résultait que Sir Joseph et Miss Lavinia avait emporté, non sans peine, le consentement de Nathalie et que le mariage devait avoir lieu dans la première semaine de janvier. Elle avait supplié son père de ne pas tant la presser, de lui accorder un délai. Mais il avait réduit au silence par des raisons puisées dans son expérience de la vie. Elle avait baissé la tête et avait paru se rendre. Turlington était médiocrement satisfait de la perspective de bonheur qui s'ouvrait devant lui. Il voulut savoir quand il pourrait parler à Nathalie. On lui proposa de revenir dîner à la maison après qu'il aurait terminé ses affaires dans la cité. Sur cet arrangement, il prit congé de ses amis. Une heure après, arriva un télégramme de Nathalie qui annonçait que sa tante la retenait à dîner et qu'elle ne rentrerait que le lendemain matin. Son père répondit immédiatement par le facteur qu'il comptait sur elle pour dîner avec Richard. Miss Lavinia, pendant qu'il rédigeait son message, regardait par-dessus l'épaule de son frère. « Vous faites bien, » dit-elle. « Je vois, » répliqua-t-il, « qu'elle veut déjà faire la coquette avec son futur. Ma dépêche produira son effet. » Il ne se trompait pas. Sa dépêche devait produire promptement son effet. Non seulement elle ramena sa fille à l'heure du dîner, mais elle eut encore une conséquence qui n'avait point été prévue. De 5 à 6 heures de l'après-midi, quand les habitantes des quartiers de l'Ouest sont en voiture et les hommes à leur club, on trouverait à Londres peu d'endroits plus propices à une causerie intime que le solitaire enclos d'un square. Ce jour-là, deux jeunes femmes venaient d'ouvrir d'un air mystérieux la porte de la grille de Berkeley Square. Elles l'avaient refermée derrière elles, sans tourner la clé et ne sortaient pas de l'allée qui longeait le côté opposé. L'une était Nathalie Graybrook, l'autre la fille aînée de Mistress Sandford. Cette jeune personne avait eu de la chance, comme disaient ses amis. Elle était devenue la seconde femme de Lord Winwood, qui lui avait apporté 3 belles filles, toutes plus âgées qu'elle. Lady Winwood était une petite blonde d'un caractère vif et déterminé, tout l'opposé de celui de Nathalie, ce qui en avait fait 2 amies intimes. « Ma chère, c'est assez d'un mariage d'ambition dans notre famille. Je me suis promise à moi-même que tu épouserais l'homme de ton choix. Tu dis que tu n'oses pas, mais tu n'as donc pas de caractère ?» Le chapeau de la petite personne, qui s'exprimait en termes si catégoriques, n'arrivait pas aux épaules de Nathalie. Si elle avait voulu se baisser et souffler bien fort, Nathalie eût fait voler par-dessus la grille ce petit être léger, sémillant, éthéré. Mais qui a jamais vu une femme grande ayant une volonté propre ? « Tu te joues de M. Lindsay, ma chère. Il est très gentil, je l'aime beaucoup. Tu as tort. »« Louise ! M. Turlington n'a rien pour lui. Ce n'est pas un vieux gentilhomme de grande maison, c'est une simple brute qui se trouve avoir ramassé de l'argent. Je ne veux pas que tu l'épouses. Tu épouseras Lancelot Lindsay. »« Veux-tu me permettre de parler, Louise ?» « Je te permets de répondre, voilà tout. N'es-tu pas venue ce matin, éplorée ? N'as-tu pas dit, « Louise, ils m'ont condamnée, je dois me marier la semaine après le jour de l'an, viens à mon secours au nom du ciel ?» Tu as dit tout ça et plus. Et qu'est-ce que j'ai fait quand je t'ai eu écoutée ? Oh, tu as été bonne !»« Bonne, ce n'est rien. J'ai commis des crimes pour toi. J'ai trompé mon mari et ma mère. » « N'est-ce pas pour toi que j'ai obtenu de ma mère qu'elle inviterait M. Lindsay à déjeuner, comme étant un de mes amis ? N'est-ce pas pour toi que j'ai renvoyé mon pauvre mari depuis 1 heure à son club ? Dis, malheureuse, qui t'a ménagé un rendez-vous dans la bibliothèque ? Qui a expédié M. Lindsay chez son ami au palais de justice pour le consulter sur la loi qui concerne les mariages secrets ? Qui donc a proposé de télégraphier à ton père que tu resterais ici ? Qui a donné rendez-vous ici à ton jeune homme dans 10 minutes ? C'est moi qui ai fait tout cela, dans ton intérêt et pour t'empêcher de te marier comme moi, pour le plaisir de ta famille et non pour toi-même. Ce n'est pas que je me plaigne de Lord Winwood ou de ses filles. Lui est charmant et ses filles, je finirai par les dompter. Très bien. « Maintenant, qu'est-ce que tu me dois en échange ? De connaître au moins ton propre cœur. Tu n'y vois pas clair. Tu me répètes froidement qu'à tout prendre et toute réflexion faite, tu n'oses pas courir le risque. Veux-tu que je te dise, tu ne mérites pas ce gentil garçon qui baiserait la terre où se pose ton pied. Tu n'as pas de sang dans les veines. Je ne croirai jamais que tu l'aimes. »
Moi, ne pas l'aimer ?
Nathalie s'arrêta court et joignit les mains, cherchant en vain des mots assez énergiques pour la circonstance. Au même instant, on entendit fermer la porte de la grille. Elle se retourna, Lance était entré dans le jardin, devançant l'heure du rendez-vous. « Maintenant, parlons de la loi sur les mariages secrets, » dit Lady Winwood en l'apercevant. « Monsieur Lindsay, approchez et asseyons-nous d'abord. » Elle choisit une banquette et l'y fit asseoir entre elle et Nathalie. « Eh bien, monsieur le conspirateur, apportez-vous la licence ?»« Non, est-ce qu'elle coûte trop cher ? Faut-il que je vous prête de l'argent ?»« Elle coûte un parjure, » dit Winwood. « Dans mon cas, » répondit Lance. « Nathalie est mineure. Pour obtenir la licence, il me faudrait affirmer sous serment que je l'épouse avec le consentement de son père. » Il regarda Nathalie d'un air piteux. « Je ne pouvais guère faire cela ?» dit-il du ton d'un homme qui s'excuse. « Le pouvais-je ?» Nathalie frissonna. Lady Winwood haussa les épaules. « Une femme à votre place n'eût point hésité, » fit observer la petite dame. « Mais les hommes sont si égoïstes ! Eh bien, j'imagine qu'il y a quelque autre moyen ?»« En effet, il y a un moyen. Seulement, il s'y attache une terrible condition. » « Encore quelque chose de pire qu'un parjure, monsieur Lindsay. Un assassinat, alors ?»« Vous allez le savoir, Lady Winwood. Le mariage d'abord, la condition ne vient qu'après. Il n'y a qu'un moyen pour nous tirer d'affaire, il faut publier les bans. »«
Les bans ? » s'écria Nathalie. « On les proclame publiquement à l'église ?»«
Il n'est pas nécessaire que cela se fasse dans votre église, petite bécasse. » repartit Lady Winwood. « Et quand même, personne n'en serait plus avancé. Tu peux t'en fier, ma chère, à la prononciation d'un prédicateur anglais. » « C'est précisément ce que m'a dit mon ami, » s'écria Lance. « Voici les conseils qu'il m'a donnés. Prenez un logement dans le voisinage d'une église paroissiale d'une certaine importance, dans un quartier éloigné. Puis vous irez chez le clerc, vous l'informerez que vous voulez vous marier avec les bans et que vous êtes de la paroisse. Quant à la demoiselle, à votre place, je simplifierai les choses en déclarant qu'elle y demeure aussi. Je donnerai une adresse et j'y aurai quelqu'un pour répondre. Le clerc n'y mettra pas de malice, son droit est de 18 pence. Quant au curé, on lui donnera vos noms sur un bout de papier avec 10 ou 12 autres et il les lira tout d'une haleine, dans un pêle-mêle inintelligible du haut de la chaire. Vous serez au pied de l'autel au moment voulu, avec Brown et Jones, Knox et Stiles, Jack et Jill. Telles sont les formalités pour les bans. » Nathalie poussa un soupir. Elle se tordait les mains.
« Nous ne réussirons pas !» répétait-elle avec découragement.
Lady Winwood ne partageait pas ses craintes.
« Je n'y vois rien de si formidable jusqu'à présent, mais nous ne sommes pas encore au bout. Vous parliez d'une condition, monsieur Lindsay ?»«
J'y arrive, Lady Winwood. Vous avez cru, n'est-ce pas, comme moi d'ailleurs, qu'en sortant de l'église, je mettrai Nathalie en voiture et que je partirais avec elle ?»«
Sans doute, et je jetais un vieux soulier après vous pour vous porter bonheur et m'en aller chez moi. »
Lance hocha la tête d'un air soucieux. « Nathalie doit s'en aller avec vous. » Lady Winwood fit un haut-le-corps.
« Est-ce là cette condition dont vous vouliez parler ?»«
C'est la condition. Je puis l'épouser sans risquer rien de grave. Mais si je l'emmène ensuite, et si vous êtes là pour m'aider et m'encourager, nous sommes coupables de détournement, et cela peut nous conduire tout droit à Old Bailey en cour d'assises. » Nathalie fit un bond d'effroi. Lady Winwood leva le doigt pour lui imposer silence. « Nathalie n'a pas encore 16 ans, » poursuivit Lance. « Il faut que de l'église, elle retourne immédiatement chez son père. Pour l'enlever, je suis obligé d'attendre le jour de son anniversaire, pas une heure plus tôt, où c'est un détournement de mineur. Ah, la tyrannie dans un pays libre !»
Nathalie se rassit un peu soulagée. « Elle est très bonne, cette loi, » fit-elle. « Au moins, elle ne vous force pas de vous enfuir tout d'un coup de chez vos parents. Elle vous laisse le temps de réfléchir, de faire des projets, de vous préparer. Je vous assure, Lance, si je me laissais persuader de vous épouser, ce qui me déciderait, ce serait cette loi sur les détournements. Ne la maudissez pas. » Lance l'écoutait sans conviction. « C'est une perspective bien agréable de nous séparer à la porte de l'église et de traiter ma femme comme une demoiselle qui doit épouser un gentleman de mes amis. »«
Croyez-vous donc que ce sera gai pour moi ?» répliqua Nathalie. « De recevoir les hommages de Richard Tarlington quand je serai votre femme ? Quel supplice ! Je voudrais être morte !»«
Allons, allons !» intervint Lady Winwood. « Il est temps d'être sérieux. » L'anniversaire de Nathalie tombe le jour de Noël, monsieur Lindsay. Elle aura 16 ans.
À 7 heures du matin, interrompit Lance. C'est son père qui me l'a dit. À 7 heures 1 minute, temps civil, nous pourrons nous sauver.
3 mois, ce n'est pas l'éternité. Vous les passerez en complétant la liste de vos acquisitions futures.
Mais le mariage, comment ferez-vous?
J'ai tout prévu, reprit Lance. Tout marchera comme sur des roulettes. » Il se tourna vers Nathalie qui l'écoutait, ébahie. Rien n'était plus simple. Il avait eu l'heureuse inspiration de s'adresser à la stewardesse dont le mari s'était attiré la colère de Turlington. Le couple avait trouvé un emploi à bord d'un autre yacht et ne demandait pas mieux que de tremper dans une conspiration où leur ancien maître jouerait le rôle de victime. Dans la maison où il demeurait, c'était à l'autre bout de Londres, on louerait une chambre au nom de Nathalie, qui passerait pour la nièce de la stewardesse et qui même irait de temps en temps y faire une visite avec Lady Winwood. De son côté, Lance devait transporter son domicile dans le même quartier et le steward, au besoin, répondrait de lui. Tout était donc prêt, il ne manquait plus que le consentement de la demoiselle. Nathalie était dans un grand embarras. Son père avait toujours été si bon pour elle. Comment se résoudre à lui causer de la peine? Elle demandait du temps, au moins jusqu'à ce soir, puisqu'on devait encore se rencontrer après dîner chez sa tante. Lance et Lady Winwood s'efforçaient de lui faire comprendre qu'il y avait péril en la demeure. Tout à coup, la grille s'ouvrit et un domestique de Mistress Hanford vint apporter une dépêche pour Miss Graybrook. C'était la dépêche de son père qui la rappelait à la maison. Nathalie ouvrit le pli d'une main nerveuse. En la lisant, elle rougit et ses yeux brillèrent d'indignation.
« Comment ? Mon père lui-même peut donc être dur pour moi quand Richard est avec lui ?»
Elle tendit la dépêche à Lance et ses yeux se remplirent de larmes.
« Vous m'aimez ?» dit-elle doucement.
Elle s'arrêta, puis, avec une subite résolution.
« Épousez-moi » dit-elle.
Lady Winwood, pendant ce temps, avait lu la dépêche. Voici en quels termes elle était conçue. « Sir Joseph Graybrook, Muswell Hill, à Miss Nathalie Graybrook, Berkeley Square. Rentrez immédiatement. Vous devez dîner ici avec Richard Turlington. » Nous sommes au mois de novembre. Il est 10 heures du matin. La scène représente une église dans un quartier pauvre et populeux des régions inconnues qui s'étendent à l'est de la Tour de Londres. Un mariage s'approche de l'autel. Le fiancé est pâle, la demoiselle semble peu rassurée. L'ami qui l'accompagne, une petite personne à l'air déterminé, lui parle bas pour lui donner du courage. Les deux respectables témoins, apparemment un couple marié, qui complète le cortège, ne paraissent pas savoir au juste quel est leur rôle dans la cérémonie. En les plaçant, le bedeau soupçonne qu'il y a une anguille sous roche et s'attend à quelque chose d'inusité sous forme de pourboire. Le ministre, le second curate, sort de la sacristie. Le clerc est à sa place. L'œil du ministre s'arrête tout à coup avec une expression de curiosité mal dissimulée sur le jeune couple et sur l'ami de la fiancée. Il remarque l'absence de parents âgés. Il constate chez la fiancée et chez son ami une distinction de manière à laquelle on n'est point habitué dans cette église. Son regard va chercher celui du clerc qui, de son côté, vient d'examiner cette noce avec intérêt. Jenkinson, dit ce regard, est-ce que tout est dans l'ordre ?
Monsieur, répond le regard du clerc, toutes les formalités ont été remplies.
Le curé ouvre son livre. Les formalités ont été observées, il sait ce qu'il lui reste à faire.
Attention, Lancelot. Courage, Nathalie. Le service commence.
Lancelot scrute tous les coins de l'église d'un dernier regard furtif.
Ne verra-t-on pas sortir de ces stalles vides Sir Joseph Greybrooke pour tout arrêter ?
Richard Turlington ne se cache-t-il pas dans la galerie, guettant le moment où le ministre va l'inviter à s'opposer au mariage, ou sinon à garder le silence désormais pour toujours ?
Non. Le ministre procède avec ordre, aucun incident ne se produit.
Le charmant visage de Nathalie devient de plus en plus pâle, son cœur bat de plus en plus fort à mesure que le moment approche où vont être prononcés les mots qui les uniront pour la vie.
Lady Winwood elle-même se sent gagnée par une émotion inaccoutumée.
Elle se rappelle avec un peu d'amertume son propre mariage.
À quoi pensais-je, moi, quand j'étais à cette place ?
À la brillante toilette de la fiancée et au jour où Lady Winwood serait présentée à la cour.
Le service arrive aux paroles par lesquelles ils engagent leur foi.
Lance lui a mis l'anneau au doigt, il a répété les paroles après le ministre.
Ils sont mariés, c'en est fait.
Arrive qui pourra, c'est fait.
Le service est terminé.
Les mariés et les témoins entrent à la sacristie pour signer leur nom sur le registre.
La signature est chose sérieuse comme le service divin.
Il ne s'agit pas ici de jouer avec la vérité.
Quand le tour de Lady Winwood est venu, elle n'écrit pas son nom avec sa décision et sa grâce habituelle et elle laisse tomber son mouchoir.
Le clerc le ramasse et, en le lui présentant, remarque une couronne brodée dans le coin.
On paie les pourboires, on sort.
D'autres couples, après la cérémonie, se montre heureux et communicatif.
Celui-ci est plus taciturne et plus embarrassé que jamais.
Chose encore plus étrange, au lieu de partir avec une foule joyeuse d'amis et de connaissances, les époux se séparent à la porte.
Le respectable témoin et sa femme s'en vont à pied.
La petite dame au mouchoir brodé met la mariée dans un cab, monte avec elle et dit au cocher de fermer la porte, pendant que le marié reste sur le perron de l'église.
Le marié a l'air sombre, on le serait à moins.
Il passe la tête dans le cab, il saisit la main de sa femme, il parle bas.
Évidemment, on a de la peine à se débarrasser de lui.
La petite dame fait acte d'autorité, sépare les mains, repousse le marié et crie au cocher de partir.
La voiture s'éloigne, le jeune homme descend la rue d'un air pensif.
Le clerc, qui a tout observé, retourne à la sacristie et rend compte de ce qu'il a vu.
Le recteur, ayant sa femme à son bras, est entré en passant.
Il cause avec le curé du bizarre mariage qu'on vient de célébrer. Il questionne pour s'assurer que rien de fâcheux ne peut résulter de cette affaire et il paraît satisfait des réponses qu'il obtient.
Sa femme est plus difficile, elle a examiné les signatures.
L'un des noms l'a frappé. Elle l'a déjà entendu quelque part.
Dès que son mari a lâché le clerc, elle lui fait subir à son tour un interrogatoire sévère et lorsqu'il arrive au chiffre brodé surmonté d'une couronne, elle met le doigt sur la signature « Louisa Winwood ».
« Je sais qui c'est, » dit-elle au recteur. « C'est la seconde femme de Lord Winwood. J'étais en pension avec les filles qu'il a du premier lit. »
Nous nous rencontrons quelquefois au concert de musique sacrée. Je trouverai bien moyen de leur parler.
Un instant, monsieur Jenkinson. Laissez-moi prendre les noms avant de serrer le livre.
Lancelot Lindsay, Nathalie Greybrooke.
Joli nom, très poétique.
J'adore les romans.
Bonjour.
Elle jette au curé un sourire, au clerc un petit signe de tête et sort de la sacristie.
Nathalie, qui est retournée à Muswell Hill en compagnie de Lady Winwood, Lancelot, qui erre dans les rues en maudissant la loi sur les détournements, ne se doute pas que déjà le sol est miné sous leurs pieds.
Richard Turlington pourra être instruit un jour ou l'autre. La découverte ne dépend plus
que d'une rencontre fortuite entre la femme du recteur et les filles du lord.